Donc moi, je vais vous présenter l'ouvrage de Cussé qui s'appelle « Le déchaînement du monde ». Et alors là, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans le mal tel qu'il existe et en le séparant de la philosophie. Alors c'est un ouvrage qui paraît moins philosophique que ce qu'on a vu d'habitude. Cussé, c'est un historien des idées qui est professeur de civilisation à Nanterre et qui a fait donc plusieurs ouvrages. Il est né en 1969, donc c'est quelqu'un d'assez jeune. Et ses références sont plutôt dans les analyses des choses contemporaines, quoi. Voilà. Alors j'ai emprunté le livre à la bibliothèque et puis je n'ai pas pu le réemprunter. C'est pour ça que je ne l'ai pas là ce soir, parce que ce livre, entre-temps, il s'est déclaré exclu du prêt parce qu'on n'arrive plus à le retrouver, tout simplement. Voilà. Donc l'enjeu de cet ouvrage, c'est de problématiser le phénomène de la violence en le distinguant des approches populistes qui sont basées sur l'émotion, l'insécurité, le terrorisme, les banlieues, etc. Alors, pour Cussé, le problème de la violence, c'est d'abord un problème de perception et de discernement. Pourquoi ? Ben parce que quand on évoque la violence, on est toujours, de façon spontanée, focalisé sur l'instant de la violence. C'est le moment où la violence fait irruption dans la vie quotidienne et qu'on est sidéré, qu'on a un choc émotionnel. Et c'est à ce moment-là qu'on a ce sentiment de violence qui fait retour. Or, avec un regard historique et systémique, donc qui est le sien, on discerne que la violence est un phénomène beaucoup plus vaste, plus imperceptible et surtout un phénomène qui est intégré à l'économie libérale. Alors, la thèse de l'auteur, si on peut la résumer, c'est que nous sommes dans le déni de la violence, nous en avons perdu l'expérience, y compris dans la guerre, parce qu'on veut des guerres propres, des guerres avec des drones, etc., et que les événements les plus traumatisants ne sont pas constitutifs de la violence, mais simplement des épiphénomènes qui s'inscrivent dans des processus généralisés de violence qui sont invisibles, non perçus, non reconnus comme tels et tapis dans le quotidien. La thèse de l'auteur, c'est de dire qu'effectivement, il y a un nouvel âge de la violence qui est irrépressible et c'est ce qu'il appelle le déchaînement du monde. Alors, je vous ai fait dans la présentation donc le plan que je vais adopter, qui correspond au plan du livre, hein, avec 5 chapitres. Donc, le premier constat, ce sont les métamorphoses de la violence. Alors, la grande violence n'est pas nouvelle, bien entendu. Les conquêtes coloniales, la discrimination religieuse, les exodes, etc., etc. Rien d'inédit. Qu'est-ce qui change ? 3 choses. D'abord, toutes ces violences sont en extension. Et c'est surtout qu'elles s'inscrivent dans un cadre idéologique de pacification qui a été construit après-guerre. Or, en réalité, il y a prolifération des armes, une illusion d'un monde en paix et d'une société innocente. Alors, juste pour prendre l'exemple du terrorisme, les attentats, l'hyperviolence, l'orgie de la mort, tout ça sont des phénomènes qui nous sidèrent, parce que nous croyons que nous sommes en paix, que nous sommes une société innocente. Or, dit-il, on est là devant un manichéisme, qui représente 2 apocalypses en miroir, d'un côté les fous de Dieu, et de l'autre les élateurs de la société de consommation. C'est pourquoi il faut penser la violence de façon plus large, l'inscrire dans une mécanique globale et générale, dans un monde en guerre, où s'affrontent les puissants et les peuples, les minorités opprimées. Le deuxième aspect de ces métamorphoses, c'est que les voyous ont muté. Les voyous ont désormais pignon sur rue, Il s'intègre dans la société et revendique honorabilité et respectabilité. Jusqu'au néo-milliardaire là, qui crée des fondations, des actions de bienfaisance, etc., etc. Donc on a une criminalité en col blanc, Madoff, Kerviel, etc. La voyoucratie est intégrée dans la société à tous les stades de l'administration et de la politique. D'où les concepts de patron voyou, d'élu voyou, etc., etc. Les voyous, si on peut en donner une définition, c'est ceux qui sont du bon côté de la frontière du droit et ceux qui s'arrogent le pouvoir de désigner les voyous et de tracer les contours de la société sécuritaire. Le troisième aspect de cette métamorphose, c'est que la violence est infinie, illimitée, et qu'elle débouche sur un écocide, c'est-à-dire une destruction de l'environnement qui est sans précédent et dont on ne voit pas comment on peut la faire cesser. Donc là, j'insiste pas. Le deuxième constat, et donc là on est dans le deuxième chapitre, c'est que cette violence relève d'une brutalité systémique. Elle se présente comme une brutalité globale, un phénomène tout à fait complexe, avec de multiples explications de responsables, mais une cause convergente, qui est la quête infinie de richesses, intensifiée par le capitalisme déchaîné. Et donc, cette violence infinie provoque un triple ravage, celui de la nature, celui du socius et celui de la subjectivité. J'aborde donc ces trois ravages dans cet ordre. Donc, premièrement, l'individu. Ce système de violence se fonde sur un économisme, alors, entre guillemets, un économisme sacrificiel, c'est-à-dire une façon de gérer les ressources humaines dans lesquelles l'individu est broyé, le salarié précarisé, les hommes étant une variable d'ajustement face aux impératifs de la productivité, du rendement et de l'optimisation. Et donc, la violence sur l'individu se traduit par des phénomènes d'anxiété, d'épuisement, de burn-out, et tout ça suggéré par une pédagogie de la soumission, une dévalorisation de soi, de l'infériorité, de la culpabilisation, la menace du chômage, etc. Deuxième ravage, le ravage sur la vie sociale, eh bien, cette violence dissout le rôle traditionnel des institutions. Les institutions cessent d'être des médiatisations, des temporalisations, car elles sont sous le contrôle des acteurs de la finance, le resserrement des coûts et l'optimisation des ressources humaines. Et donc, les grandes institutions, la culture, la recherche, les transports, etc., etc., tout ça, toutes ces institutions cèdent leurs enjeux de libération et d'épanouissement au profit de l'institution d'une société de contrôle et de surveillance généralisée. Alors évidemment, il faudrait expliquer tout ça, mais on voit bien que dans chaque institution, il faut en passer par un contrôle systématique. Alors au cœur de cette institution et du contrôle, il y a l'arme du droit. Et donc cette violence passe par l'arme du droit. Le droit est investi d'une nouvelle fonction qui n'est plus de protéger le citoyen, mais de créer un cadre juridique qui circonscrit étroitement les libertés de l'individu. On le voit encore récemment avec le délit d'assistance humanitaire, c'est-à-dire que le citoyen, même porté spontanément vers l'aide humaine, eh bien, il est limité. Donc le droit perd sa dimension émancipatrice au profit de la violence tutélaire des lobbies et des puissances financières. Qu'on pense simplement au droit européen avec toutes les normes qui sont données. Le développement du droit traverse trois grands mouvements. Son internationalisation, là on le voit aussi, son renchérissement, toujours plus loin dans tous les domaines, y compris dans la vie privée, dans les relations humaines, et son durcissement répressif. troisième forme de la brutalité, c'est les ravages de la nature. Bon, là, j'y insiste pas, chacun sait comment ce capitalisme sacrifie impunément et de façon irréversible l'environnement naturel. Alors, le troisième chapitre et le quatrième chapitre cherchent un petit peu à donner des explications et des analyses. Le premier niveau d'analyse, c'est d'où vient cette violence dans l'histoire et quelle est sa place, comment fonctionne-t-elle dans la société. Alors, c'est la partie peut-être la plus philosophique de l'ouvrage, dans lequel on trouvera des références avec Hobbes, Rousseau, Elias, Walter Benjamin, Freud, etc., etc. Donc là, je ne peux que abréger. Il examine d'abord les deux thèses antinomiques de la fiction de la nature, excusez-moi, de l'état de nature, voilà, c'est ça que je cherchais mon mot, de l'état de nature, mettant Hobbes et Rousseau dos à dos et excluant le principe d'une violence fondée sur la nature de l'homme. Alors, il va chercher plutôt une explication dans l'histoire, l'histoire du rapport à la violence, et donc l'auteur montre comment on passe d'une modernité civilisée, policée, à une société hyper contemporaine devenue violente et incivile. Le basculement de cette histoire se passe autour des années 60 avec ce qu'il appelle la montée de l'informel. C'est-à-dire qu'il y avait, avant cette période, ce phénomène, un équilibre fragile entre l'autorépression, l'intériorisation des normes, etc., et la répression. Et tout ça bascule avec l'apparition d'une contre-culture libératoire qui s'exprime par la dérision, le cool, le kitsch, l'ironie, et déjà le plébiscite par le nombre, ce qui est déjà la préfiguration de l'attraction populiste. La contre-culture correspond à un déclin de l'institutionnel qui se traduit par le glissement de la violence légitime et institutionnelle vers les puissances de l'argent et du capital décomplexé et ostentatoire. Alors là, ce qu'il explique, c'est que à la suite de cette montée de l'informel, on assiste à un découplage entre ce qui relève de l'État et ce qui relève du politique. Alors que les deux sont normalement articulés, eh bien désormais, ils vont former deux pôles de la violence systémique dans notre société. Le pôle froid et le pôle chaud. On a donc avec l'État le pôle froid, c'est-à-dire celui de la structure institutionnelle, la rationalité, la comptabilité, les règlements, la prévention, la machine civique, etc., etc. Et de l'autre côté, on a un pôle chaud, qui est le pôle du politique, du populisme, des effets sur les forums des réseaux sociaux, l'expression par des caricatures, la conspiration, la théorie du complot, les fake news, le discrédit des pouvoirs institués, et également ce que vivent les gens, les souffrances au quotidien, le stress, les discussions qui dérapent, le buzz, la grande arène décomplexée de la parole en ligne, et le politique devient le lieu d'affrontement collectif avec des campagnes électorales virulentes, alors que le pouvoir est plutôt en difficulté. Donc on a d'un côté le lieu de la raison d'État, la régulation de la vie politique, la hiérarchie formelle et égalitaire, et de l'autre, un lieu du politique qui est informel et qui ne retient plus la violence. L'espace public devient le bouillon des rancœurs, des plateformes de défoulement, la domination par les forts en gueule et les stars des réseaux sociaux. Bref, le découplage entre l'État et la politique fait apparaître deux instances de représentation politique qui ne se recoupent pas, ou qui se recoupent de moins en moins, qui n'interviennent pas sur le même registre, ni avec le même langage, et cette divergence est irréversible, et elle ouvre la porte à tous les excès. Alors, tous les excès, c'est ce qu'il appelle Les Nouveaux Sauvages. Alors, Les Nouveaux Sauvages, en référence à un film de 2014, dans lequel on voit la spirale et la surenchère de la violence. Moi, je n'ai pas vu ce film. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu. En tout cas, ça sert à expliquer ça. Donc, on a Les Nouveaux Sauvages, ben, c'est les nouveaux chefs d'État autoritaires, des modèles de despotes à l'ancienne, qu'on voit, Trump, Erdogan, etc. Les dérapages verbaux. La vérité émotionnelle revendiquée au nom de l'authenticité et ce qu'il appelle la nouvelle sauvagerie des classes moyennes, c'est-à-dire des sujets qui donnent libre cours à leurs pulsions, à leur hubris, qui prônent la consommation sans limite, qui visent à desserrer l'étau de l'inhibition, à désactiver l'interdit de la violence. C'est le modèle du borderline et j'ai pensé à un animateur qu'on voit sur C8, je ne sais pas si vous connaissez, Cyril Hanouna, qui s'autorise absolument toutes sortes de choses. C'est ça, les nouveaux sauvages. Donc, ce qui caractérise les nouveaux sauvages, c'est qu'ils sont le moteur d'une économie du signe. Alors là, il y a une analyse. Le marché capte les affects, les émotions et les convertit en signes. Ces signes, ce sont les styles de vie, les tendances, les objets de toutes sortes, qui sont des objets marqueurs de richesse et de style de vie. Il faut s'approprier ces signes pour exister. Donc le signe n'apaise pas la violence, mais il l'attise, il contourne l'interdit de la violence. Le signe des signes, c'est évidemment l'argent, et il n'y a pas de richesse si elle n'est pas ostentatoire. Un deuxième niveau d'analyse est proposé, c'est le niveau d'analyse par les contradictions et les antinomies de la société de consommation. Cette nouvelle violence systémique est liée aux effets directs de l'abondance. L'abondance a des effets sur la construction sociale du sujet et sur la culture. Alors le sujet ne peut pas se construire sans la mise à distance de ses pulsions, sans l'institution d'une limite à la satisfaction des désirs. Or, la société d'abondance, stimulée par les nouvelles technologies, pulvérise cette limite. Il faut tout, tout de suite. Le sujet n'a pas le temps de désirer quelque chose qu'il y a déjà un désir derrière qui pousse de façon compulsive et infinie. C'est pourquoi on arrive à cette contradiction que la promesse de l'abondance est intenable. La promesse de l'abondance n'est que le masque trompeur de la rareté, qui est déjà la rareté du sujet, la rareté du temps, de la satisfaction, de la reconnaissance. Et donc, au lieu de créer de la satisfaction, elle crée de la frustration. Et la frustration est l'ingrédient majeur de la violence. Les incidences sur le sujet contemporain, c'est la violence à fleur de peau, le refus des contraintes, le refus de l'insatisfaction, la frustration, la quête insatiable d'objets et surtout d'objets signes pour exhiber sa réussite, son existence, montrer sa vie en ligne, être connu. Le sujet contemporain est donc marqué par le narcissisme pathologique, une obsession fétichiste, une fureur diffuse. Qui est à l'origine du stress, pardon. Et c'est aussi, alors, de façon, si on peut le décliner, la recherche de palliatifs dans les psychotropes, les neuroleptiques, la fréquentation des salles de sport, des lieux de défoulement et la recherche de régulation plus douce. Deuxième effet, c'est l'effet sur la culture. Alors, la violence systémique transforme la culture. La violence sous toutes ses formes circule, elle a ses relais, ses vecteurs médiatiques, mais elle est métabolisée dans la culture. La culture qui devient le lieu de décharge cathartique de la violence. Par exemple, dans le sport, on a tous vu le coup de tête de Zidane, c'était de la violence pure, mais ce geste, après le choc, est sublimé ensuite dans des œuvres d'art, dans des commentaires, etc. La culture, c'est l'humour, la dérivation par le rire et la dérision. Et cette catharsis culturelle investit plusieurs modalités, le narratif, l'énonciatif, mais la plus significative de ces expressions, c'est le scopique, ce qu'il appelle le scopique. Le scopique, c'est la tyrannie de la visibilité, c'est-à-dire ce qui peut être vu à travers le web. Il s'agit donc de filmer la violence, quelle qu'elle soit. Plus c'est gore, plus c'est salace, mieux c'est. Montrer l'image qui tue. La violence scopique, en deux mots, bien sûr, c'est la construction sociale d'un dispositif scénique d'interpassivité généralisée qui capte le spectateur impuissant et consentant. Donc un dispositif construit qui capte celui qui regarde et qui ne peut rien faire. La visibilité, c'est la nouvelle énergétique de la violence. Elle permet de dissoudre les frustrations dans un miroir de l'image de soi. Il faut s'exhiber pour être reconnu, pour exister, et donc abolir toute frontière du privé, du caché, de l'intime. C'est le prix à payer pour gagner la guerre des perceptions qui invisibilise les perdants, car ce qui compte, c'est l'audimat, le nombre de vues en ligne. Pour finir, le cinquième chapitre, une fois abordé toutes ces questions d'explication de la violence, c'est de savoir si la violence a une capacité émancipatrice. Et l'auteur montre qu'il y a bien en effet des résistances à cette violence, qu'il y a bien des mouvements de contestation qui refusent la société de consommation, le déchaînement capitaliste avec tous ses avatars sur la destruction des modes de vie et de la nature. Mais ce militantisme contestataire a lui aussi muté. Et il n'est pas sans lien avec la violence qu'il veut abolir. Donc là aussi, il y a une espèce de contradiction. On observe donc des nouvelles logiques d'action, comme on le voit, occupation de locaux, occupation des places publiques, les ZAD, et des formes de radicalisme brutal qui concernent l'écologie, la défense animale, enfin on a vu les attentats là, sur les boucheries, etc. Il y a une nouvelle intelligence de l'émeute, qui n'est pas sans poser certains problèmes de légitimité. Car la violence n'introduit pas un droit. Quel est le droit de la violence? Par exemple, les Black Blocs sont-ils légitimes? Quelle est la légitimité des minorités violentes? Alors, ce nouveau militantisme institue un continuum entre l'action non violente et l'action violente, un spectre d'action qui va de la pétition au cocktail Molotov, voire plus, puisque maintenant, alors on cite un auteur là qui est Günther Anders, qui en 1986 dénonce la non-violence comme étant une lâcheté. Il brise le tabou du meurtre et il préconise l'assassinat des industriels, des policiers, des responsables, etc. On a vu ce que les Brigades Rouges en ont fait. Les nouvelles logiques de la contre-violence dispose aujourd'hui d'un modèle. Ce modèle, il a quatre composantes. D'abord, l'ancrage territorial. Ce n'est plus l'ancrage social ou politique, c'est un ancrage territorial. Deuxièmement, une stratégie de blocage, c'est-à-dire qu'on affiche clairement et on assume d'être une minorité non représentative. Troisièmement, une communication autour d'une forme de vie. On l'a vu avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ou le modèle vegan, il y a un mode de vie qui est préconisé. Et quatrièmement, une action directe et violente si besoin, avec des barricades, des affrontements armés, etc. Ces mouvements sont très dispersés, mais ils s'appuient sur un même modèle et ils décrivent une diagonale de l'action collective qui est constitutive d'un mythe, à savoir le mythe de la convergence des luttes. Pour finir, ces luttes d'émancipation présentent un double visage. Elles s'opposent à la brutalité du système monde, mais en même temps, cette capacité d'agir n'exclut pas la violence qu'elle dénonce. Donc un militantisme qui n'échappe pas à une forme de nihilisme. Voilà.